Ô Dieu, tu es au contrôle de tout. Nous te remettons le reste de ce culte entre tes mains. Nous te remettons le prédicateur que tu as choisi en ce matin, la personne de notre frère Émile. Que tu puisses le bénir, tu puisses le fortifier, tu lui donnes les paroles qui viennent de toi. Et que tu puisses nous donner à être attentifs à ce qui va être dit, sans regarder ce que dit le voisin. Et écoutons. Que tu bénisses ton serviteur, tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous en ce jour. Nous saluons aussi, si nous avons des frères et des sœurs en Zoom, nous les saluons au nom du Seigneur. Je vais vous parler d'une histoire. Une histoire qu'on connaît, de deux personnes. Nous allons parler d'eux ce matin. Ce sont les deux aveugles guéris à Jéricho. Tout le monde connaît? Ah, merci. Voilà. Nous allons lire ce texte avant de poursuivre, qui se trouve dans Matthieu 20. Versets 29 à 34. Parlant des deux aveugles, il est dit, « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Les deux aveugles de Jéricho nous donnent l'exemple de la vraie foi. On ne va pas dire que nous n'avons pas la vraie foi, mais ils nous donnent l'exemple de la foi ici, la vraie foi. Que l'on ne peut rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. En effet, que pouvons-nous faire devant les problèmes si profonds des gens que nous côtoyons, des gens qui nous entourent? Et nous sommes dans une période où on voit tellement de choses, ici bien ici, que sur toute la terre. Devant le chômage, la faillite, les maladies, les catastrophes. Oui, ce récit de l'Évangile est plein d'enseignements d'une grande foi. La vraie foi, c'est vivre sans voir. N'est-ce pas? Ah, eux, ils ne voyaient pas. Et pourtant, la vraie foi, c'est vivre sans voir. Les deux aveugles ont cru sans voir. Et leur foi en Christ a ouvert leurs yeux. Puisque nous connaissons déjà l'histoire. Et Jésus a déjà dit cela dans sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Jésus dit aussi. La foi n'hésite pas. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les deux aveugles ont cru au pouvoir de Jésus. Le premier exemple de la vraie foi que nous allons voir, c'est une foi qui repose sur les compassions de Dieu. Et nous le voyons au verset 30 de ce texte que nous avons lu. Il dit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dans leur prière. Aie pitié de nous. Si la prière peut toucher le cœur de Jésus, c'est parce que leur cœur était vrai. C'est pas simplement parce qu'ils ont crié, parce que leur cœur était vrai. Ils avaient déjà la foi. Ils savaient ce qu'ils allaient demander. N'oublions pas que Jésus dit, ce qui sort de la bouche vient du dedans, du cœur, que tout vient. Leur cœur était vrai. Et nous savons aussi que nous, quand nous prions, il y a des moments, tout le monde peut le dire, il y a des moments où on prie, on demande au Seigneur, mais avec conviction, et on voit la chose. Mais des fois, on prie, et on ne voit pas la chose, parce que notre cœur n'est pas tout à fait vrai. Oui, du cœur que tout vient, leur cœur était vrai. Et que la compassion comprend la souffrance. Parce qu'on dit que Jésus a eu compassion d'eux. Donc la compassion comprend la souffrance. Elle veut faire quelque chose pour l'autre. Au verset 34, il est dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. On voit ici, avec la foi, il y a la capacité de croire que Dieu agit. La compassion produit quelque chose. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et ils recouvrèrent la vue. Le Messie attendu, les deux aveugles avaient compris qui était Jésus. Ils se sont rappelés sûrement d'Ésaïe 35, qui dit, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Parce que Jésus, je pense qu'ils avaient déjà entendu parler Jésus, ce n'est pas le premier jour qu'ils ont vu Jésus. Tout Jérusalem, l'Israël, les Israéliens, les Israélites, ils connaissaient déjà Jésus, parlaient de Jésus. Ils ont sûrement pensé à ce texte, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il va vous secourir. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, le boiteux sautera, le muet éclatera de joie. Ils avaient sûrement ce texte à l'esprit. Comme dit le psaume 107, verset 10, ils ont gardé la foi, confiance, même s'ils se disaient malheureux. Je pense qu'en tant qu'aveugle, ils se disaient malheureux, jusqu'à ce que le Seigneur les délivre. Ils ont gardé la foi, confiance, même s'ils se disaient malheureux jusqu'à ce que le Seigneur les délivre. Et nous allons parler de la foi qui persévère malgré les paroles de reproche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a reproché? Vous savez que dans une foule, quand quelqu'un crie, on veut le faire toujours taire par rapport à la foule. Mais une foi qui persévère malgré les paroles de reproche qu'on leur fait, pour leur faire taire ou paroles de découragement. Hein, vous connaissez, hein, quand on vous fait une remarque dans une foule, c'est que c'est pas une petite remarque, c'est vraiment pour te faire taire. Et nous, cela nous aurait peut-être gênés, à moins que nous ne soyons définitivement épuisés et ne pouvons plus crier, lassés et repliés sur nous-mêmes, et que nous finissons par abandonner tous nos efforts pour, par exemple, dans une évangélisation, le combat pour le salut des âmes, pour servir. Et puis c'est une grande tentation, en effet, que de ne plus manifester notre volonté de faire telle ou telle chose. Alors, que fait Que font ces hommes? Mais eux, leur cri surpasse celui de la foule. Ça, c'est étonnant comme image. Hein? Leur cri surpasse celui de la foule, ne se laissant ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, ils crièrent plus fort. J'aimerais bien voir ça. Deux personnes qui crient plus qu'une foule. Parce que leur foi porte au-delà des obstacles, mais vers le Dieu tout-puissant et compatissant, nous l'avons vu. Pour que rien... le Seigneur, pour qui rien n'est étonnant et à qui rien n'est impossible, nous dit la parole de Dieu. Oui, rien n'est impossible pour notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est étonnant de sa part. Voilà la foi encore qu'ont ces hommes. Et puis à la foi qui regarde vraiment au Christ, c'est au Seigneur Jésus qui regarde. Ils appellent Jésus Seigneur, fils de David. Derrière l'homme Jésus, il voit le Christ, il voit le Messie. Quatrième exemple de la foi, c'est une foi qui écoute la voix de Jésus, pas celle des hommes qui sont sur le chemin, dont leurs voix sont nombreuses et fortes. C'est la voix de Jésus qu'ils veulent entendre. Jésus les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle chacun. Nous avons été appelés ici. Sinon, vous ne serez pas là. Nous ne serions pas là, n'est-ce pas ? « Que veux-tu que je te fasse ?» La réponse du Seigneur Jésus-Christ, je pense que si j'ai une réponse à lui donner, je lui dirai raconte ma foi. Pas vous ? C'est ma prière pour vous, que Dieu augmente votre foi. Mais as-tu commencé à utiliser déjà la petite foi que tu as? Alors, que nos yeux s'ouvrent aussi, que nos cœurs soient vrais devant le Seigneur. Que nos sentiments soient ceux de Jésus-Christ. Que nous soyons saisis de cette compassion dont Jésus demeure un modèle pour nous, qui nous mettra au service des autres, s'attachant et s'arrêtant, sachant aussi écouter les autres, chercher à comprendre. Pour cela, que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs soient vrais. Répondre à l'appel de Jésus impose de ne se laisser retenir par rien. Ni personne. Vous savez, un rien peut nous empêcher de servir le Seigneur. Nous le savons tous, hein? Une mauvaise parole. Mais j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas. Et j'en parle souvent avec Monique. Quand nous sommes frères et sœurs, mais nous ne rendons pas compte que une parole, peut-être, on ne dit jamais, on ne fait jamais du tort à notre frère, à notre sœur. Et on peut le dire mal, et c'est une catastrophe. Parce que on ne connaît pas la sensibilité de l'autre. Et vous êtes, je parle au couple. Hein, vous voyez la sensibilité qu'il y a entre mari et femme. C'est pas fini, hein, Monique et moi. On a un certain âge, mais c'est pas fini. On a une sensibilité. Et sachez que plus vous passez de l'autre côté, plus la sensibilité est différente. Il faut vraiment comprendre cela. Et c'est pour ça que dans un couple, c'est fragile. Non, c'est normal. J'apprends à connaître Monique, à continuer à aimer Monique. On pourrait dire, bon, il s'aime déjà. Bon, non, c'est pas vrai. Non, sinon, le Seigneur a déjà dit, au revoir, laisse la terre. Nous sommes là pour apprendre. Et c'est ça. Alors, voyez une église, hein. Une église. C'est pour ça qu'un pasteur a du travail. Hein, et puis il dit, il ne s'occupe pas de moi. Non, ce n'est pas de sa faute. Voilà. Que Dieu nous aide à comprendre vraiment que ce sont des choses que nous devons mettre en pratique. Et il y a les enfants aussi à côté. Hein, il faut les aimer. Il faut leur donner. Voilà. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut croire, que nous avons besoin l'un de l'autre. Si nous savons que nous avons dit quelque chose ou à un frère ou à une sœur, n'ayez pas peur d'aller dire « pardon, je ne savais pas ». Ou si vous savez que le frère ou la sœur ne sait pas que... J'ai déjà entendu, je me souviens, notre ancien pasteur, il disait « voilà, telle sœur est venue me dire « j'ai fait ceci, tel frère m'a dit « j'ai fait ça », mais il ne sait pas, il ne s'est pas rendu compte. » On ne s'en rend pas compte des fois. Que Dieu nous aide. Une relation à laquelle, oui, tu n'as pas l'habitude de renoncer, peut-être, mais il faut commencer à le faire maintenant. Il faut commencer. Chercher à comprendre l'autre. Pour cela, que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs soient vrais. Et répondre à l'appel de Jésus impose, je disais, que de ne pas se laisser retenir par rien ni personne. Ce texte voudrait attirer ma pensée, ta pensée, sur quelque chose ou une relation à laquelle je n'ai pas ou tu n'as pas renoncé et qui te prive de venir à Jésus, qui me prive de venir à Jésus par la foi pour être libéré, guéri dans ton corps et dans mon corps et dans mon âme. Les deux aveugles font appel à la compassion de Jésus. Alors, il faut croire. Il faut croire. Nous trouvons une relation entre la foi et la compassion. Le cinquième exemple est une foi qui sait demander humblement et simplement. Jésus veut que nous lui disions exactement ce que nous désirons. Ils ont sûrement éprouvé détresse, douleur, accablé de tristesse et d'angoisse, alors ils vont appeler le Seigneur Jésus-Christ au secours, comme un enfant demande à ses parents. Avez-vous la foi qui rend possible l'action de Dieu dans votre vie? Dans cette foule en ébullition, qu'est-ce que nous avons vu? Jésus entend et reconnaît leur détresse, leurs besoins, mais aussi leur foi. Nous pouvons toujours crier au Seigneur si notre cœur, notre foi n'est pas vrai. On peut attendre encore un peu. Dieu connaît nos besoins. Il ne va pas nous oublier. Il connaît nos besoins. Alors les aveugles, ils vont faire une rencontre personnelle avec Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus reste à l'écoute de nos besoins, de nos cris. Invoque-le tous les jours de ta vie, car il écoute, entend la voix de tes supplications. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. Ceux qui sont sans détour. C'est lui qui sauve et qui fait du bien. Nous avons aussi une foi qui a un but. Nous l'avons vu dans notre texte, verset 34. Ils recouvrirent la vue et ils le suivirent. Ces paroles nous enseignent une leçon importante. C'est la foi en ce que Jésus est. C'est la foi en ce que Jésus est qui le fait le suivre. Il est plein de compassion. La foi est essentielle, c'est normal, pour commencer. Autant que pour progresser dans la vie spirituelle. Ce n'est que par la foi qu'on peut suivre Jésus-Christ. Ça, on le répète sans cesse. Ce n'est que par la foi que l'on peut suivre Jésus-Christ. Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi comme vous avez reçu le Christ, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. Affermis par la foi. Comme vous êtes venu à Jésus-Christ, de la même façon, demeurez en lui par la foi. Suivez Jésus-Christ par la foi. Il y a deux choses. Il y a qui défie notre foi. Oui. Parce que nous avons obéi. Parce que nous avons obéi, nous pouvons suivre Jésus. Mais si nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu, si vous n'avez pas obéi, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Il faut obéir à la parole de Dieu. Il est dit, la foi vient de ce que l'on entend. C'est l'obéissance, toujours l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance. Dieu dit, pardonnez. Dieu dit, aimez. Dieu dit, supportez. Hein, c'est ce que j'ai tout à l'heure là, frères et sœurs. Dieu dit, faites le bien. Dieu dit, pas de paroles mauvaises ou regrettables. N'est-ce pas? Mais si nous faisons le contraire, notre foi en prend un petit coup. Notre foi. Un exemple. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Vous connaissez hein, ce passage de l'évangile, de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. N'est-ce pas? C'est clair. Et il fait autre chose. Il frappe deux fois. C'est comme les enfants, on dit tais-toi et puis quand ça ne va pas, on frappe deux fois. Hein? On fait le contraire. Au lieu d'être gentil avec l'enfant, avant, au lieu de poser la question comment, pourquoi ceci, pourquoi cela, on frappe. Oui. Dieu a dit parle au rocher et fait autre chose. Et vous savez, connaissez les résultats? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est pareil pour nous. Hein? Eh bien, Dieu ne donne pas. Hein? Dieu ne dit ne, ce que Dieu avait prévu comme bénédiction n'arrive pas. Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu dit. Au moment de pardonner, on ne pardonne pas. Au moment d'aimer, on n'aime pas. Au moment de supporter, on ne supporte pas. On fait de faire le bien, on fait le mal. Je dirais une chose, nous ne sommes plus des pécheurs. Hein. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, ne nous laissons pas emporter par nos émotions et mal agir et faire une réflexion regrettable. Ah oui, on peut dire beaucoup de choses. Je ne vais pas faire une liste, hein, mais on peut dire qu'il y a des réflexions qui sont regrettables. Ne nous laissons pas piéger par nos émotions ou gestes et paroles regrettables. Marchons avec foi et obéissons fidèlement à la parole de Dieu. C'est là que notre attention doit être sur ce que Dieu dit et ce que Dieu attend de nous. De même quand cela défie notre foi. Parce que ce que Dieu a dit à Moïse, sa foi était déjà mise à 1. Dieu voulait voir s'il faisait vraiment. Ce n'est pas le seul exemple. Hein. Si vous regardez bien la parole de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des grands, hein, je dis, hein, on va dire. Dieu avait nommé, ils ont fait le contraire. Eh bien, Dieu a tout arrêté. Ce que Dieu avait promis, Dieu a tout arrêté. Oh, c'est venu, mais des années après, je ne sais pas. Mais ça vient après, très longtemps après. Même quand cela défie notre foi, obéissons fidèlement à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En conclusion, nous allons lire le psaume 116, versets 1 à 10. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Il m'entend quand je le supplie, dit une autre version, hein, de temps en temps. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie, tous les jours de ma vie. Verset 3. J'étais en proie à la détresse, à la douleur, accablé de tristesse, d'angoisse. Verset 4. Alors j'ai appelé, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'en prie, viens me sauver la vie, dit une autre version. Ô Éternel, sauve mon âme. Verset 5. L'Éternel est miséricordieux, nous fait grâce. Notre Dieu est juste, notre Dieu est plein de compassion, plein de bonté. Il est compatissant. C'est ce que nous avons vu ce matin. L'Éternel garde les simples, ceux qui sont sans détour. Vous voyez, Dieu ne veut pas de détour. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Verset 7, mon âme retourne à ton repos, retrouve donc la paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien, te comble de ses bienfaits. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Verset 9, ainsi je marcherai encore sous le regard de l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 10, je suis plein de foi quand je parle, si humilié que je puisse être. Je suis plein de foi quand je parle, si humilié que je puisse être. Et la version Rabina, celle-là aussi dit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien trop malheureux. Amen. Que Dieu nous aide à marcher par la foi, à vivre par la foi et comprendre ce qu'il attend de nous. Que sa parole soit vraie dans nos cœurs. Amen.